Je ne savais pas pourquoi. Depuis quelque temps, je gardais au fond de ma poche deux petits morceaux de carton assez étranges. Ils étaient tout blancs, n'étaient pas lisses, mais parsemés de petites bosses qui formaient des signes géométriques incompréhensibles. Un langage secret auquel je n'avais pas accès. Un message envoyé par quelques naufragés du monde, peut-être. Bien que j'ai du mal à croire qu'il se fût échappé des nombreuses bouteilles de bière qui jonchaient le sol autour de moi. Et puis, on n'envoie pas un message de secours dans une bouteille de bière. C'est bien peu romantique. De toute façon, un naufragé depuis de longues semaines aurait bien du mal à décapsuler la bouteille avec ses dents pour y glisser un message. Le scorbut l'en aurait débarrassé depuis longtemps. Je conservais précieusement mes deux morceaux de carton avec le bonheur de celui qui possède la clé d'une énigme. Je les avais trouvés par terre, à Frolic Circle, dans Central Park au nord de Manhattan. J'aime cet endroit où la ville de New York a installé des tables d'échecs dans le jardin public. Central Park est le seul endroit de New York où l'on peut profiter complètement de la longueur du jour. Ici, aucun building n'empêche la lumière de descendre jusqu'au sol. Une rupture dans la luminosité si contrastée de la ville, dont le haut des bâtiments brille des millions de reflets des vitres miroirs, mais dont les pieds restent dans l'ombre en permanence. On comprend mieux pourquoi le rêve américain consiste à toujours vouloir monter plus haut. Je ne jouais pas aux échecs. Je m'installais un peu à l'écart, sortais ma guitare et jouais pour moi. Pour le plaisir de faire glisser mes doigts sur le manche, à la recherche de ce contact sensuel avec l'instrument quand la musique devient tactile, qu'on plonge dans l'intimité physique de sa guitare pour retrouver les parfums délicats de ces femmes qui vous ont fait trouver la vie longue. Circle est un endroit étonnant. Situé à l'angle de Harlem et de Spanish Harlem, on pourrait croire que la guerre des gangs sévit en permanence. Pas du tout. Ici, toutes les communautés s'affrontent selon les mêmes règles. La violence est codifiée. L'échec au roi est bien une mise à mort. Mais une revanche est toujours possible. Chacun est tour à tour les noirs, les blancs, et la loi est une règle du jeu acceptée par tous. Les habitués du parc sont très nombreux. On reconnaît facilement les joueurs, qui portent leur boîte de pions à bout de bras pour indiquer qu'ils cherchent un partenaire. Les parieurs, qui échangent les billets discrètement dans le dos des joueurs. Les habitants du quartier, ceux qui y viennent travailler.
Étaient là, ceux de Porto Rico, ceux de Cuba, les macros de Harlem, les revendeurs de coke ou de coca, ceux qui vivent au soleil, avec des femmes blanches dans les villas, et ceux qui mangent pas, ça fait comme des nababs à l'opéra. La voilà,
c'est une latine, et Manhattan, de la résine.
C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem, les reins cambrés au bon endroit. Elle est superbe, c'est la salsa.
une sauce mélo. De te quiero mucho et de capa, une sauce mela. C'est le Christ qui te saigne pour 20 dollars. Une sauce mêlée, de beauté, de souplesse et de conga. Une sauce lamée, comme la peau de la fille qui danse pour moi. La salsa,
c'est une latine de Manhattan, de la résine de macadam. Un coup de fouet et au tamba qui te soulève, c'est la salsa.
C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem, les reins cambrés au bon endroit. Elle est superbe, c'est la salsa.
Rebaleto.
Je la garde serrée contre mon cœur, malgré la mort qui rôde. Chuchote en quelque chose à son chauffeur, y'en a marre des palaces. Elle s'en va faire des passes pour le panard, je la suis à la trace, ramassant ses paillettes sur le trottoir.
C'est une latine de Manhattan, de la résine de macadam. Un coup de fouet qui te soulève, c'est la salsa.
C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem, et racombrée au bon endroit. Elle est superbe, c'est la salsa.
C'est pas toujours, mais c'est bien la 5e avenue qui se termine à Foley Circle. Curieusement, la dernière maison de l'avenue est une banque, juste avant Harlem. De cette banque sortait chaque fin d'après-midi à 18h, avec une régularité de métronome, un homme au costume serré, toujours muni d'un parapluie, été comme hiver. Il prenait quelques minutes pour changer de chaussures sur le trottoir après sa sortie du travail. Une habitude très new-yorkaise des habitants de la ville qui rentrent à pied chez eux et qui chaussent une paire de baskets pour être plus à l'aise, en portant dans un petit sac leurs chaussures de bureau. Confortable, certes, mais peu esthétique. Imaginez les new-yorkaises en tailleur de marque, une paire de jogging aux pieds. Cet employé s'appelait William. Je le savais. Car chaque soir, les habitants de Foley Circle se moquaient de lui. Embarrassé qu'il était avec son parapluie qu'il ne voulait pas poser par terre, de peur qu'on lui dérobât sans doute, et qu'il gênait pour nouer ses lacets. Quand enfin il avait réussi à enfiler ses chaussures, il partait d'un pas rapide, martelant le sol de la pointe de son parapluie, comme s'il voulait battre la mesure des mots qui lui montaient à la tête de colère. Mais William n'avait pas le verbe haut, et les batailles de slam sont un terrain sur lequel le sens de la répartie est une arme dangereuse. Le pauvre « Un jour, William va vous montrer sa lame !» qui lui trottait dans la tête, aurait fait bien pauvre figure au milieu du rap endiablé qu'on lui aurait renvoyé aussi sec. On n'est pas Eminem aussi facilement.
C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine, sans froideur. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si beau, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui, au hasard. Et voilà. Monsieur William, vous manquez de tenue. Qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'emmena à l'hôtel de la Pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme. Monsieur William, mort de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre dans le noir lui a coupé le cou en deux coups de rasoir. Monsieur William, vous manquez de tenue. Qu'allez-vous faire dans la 13e avenue? Il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable, Monsieur William. Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone, chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir à marcher dans le sang, puis dans la nuit a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues. Oh, Monsieur William, vous manquez de tenue, vous êtes mort dans la 13e avenue.
À l'autre bout du parc, seul à la dernière table, se tenait une femme noire très mince, très belle, à la silhouette somptueuse. Je la voyais de profil. Personne ne semblait vouloir jouer avec elle. C'était la deuxième fois que je l'apercevais dans Forest Circle. Je ramassais ma guitare et nonchalamment m'approchais d'elle. Elle ne jouait pas aux échecs. Elle avait disposé devant elle un jeu constitué de milliers de pièces blanches. Un puzzle. Un bien étrange puzzle. Pas une image n'apparaissait sur aucun des morceaux. Ses mains effleuraient avec précision chaque morceau, le caressaient, le pressaient délicatement entre deux doigts, le faisaient tourner sur lui-même. Je ne pus m'empêcher de penser à ce que ses mains devaient provoquer sur le corps d'un homme. « Puis-je m'asseoir en face de vous ?»« Bien sûr, monsieur le guitariste, » me répondit-elle d'une voix mélodieuse. « Vous savez que je suis guitariste. »« Je vous ai écouté. »« Promenez vos doigts sur votre guitare. »« Votre jeu est subtil. »« Il doit rendre bien des femmes heureuses. » Je me faisais la même réflexion en vous regardant toucher les pièces de votre puzzle. « C'est bien un puzzle. »« Comment reconnaissez-vous les pièces ?» Elles sont toutes blanches. Cette construction a-t-elle un sens? C'est un texte. un texte fondamental. Je regrette bien de ne pouvoir lire ce texte. Vous pourriez. Observez les embossages sur les morceaux. Ils constituent des lettres, des mots. Je les assemble en phrases. Je remarquais alors seulement la fixité de ses yeux profonds et compris qu'elle était aveugle. Sans bruit, sans un mot, autour de moi s'était rassemblée une foule constituée d'hommes blancs, d'hommes noirs, venus protéger la femme au puzzle. De sa voix toujours aussi douce, elle leur dit « Je vous remercie, messieurs. Monsieur le guitariste est un ami, un nouvel ami, j'en suis sûr. Vous pouvez retourner à vos jeux. » Avec un sourire énigmatique, les joueurs regagnèrent leurs échiquiers. Vous semblez être très respecté dans le quartier. Le puzzle était presque terminé. Je vis son front se rider de contrariété. Il me manque deux pièces. Je crois que c'est moi qui les ai. Je sortis de ma poche les deux petits morceaux de carton blanc et les plaçai avec soin pour terminer le puzzle. Je guidai sa main pour qu'elle vérifiât que je ne m'étais pas trompé. Son contact était chaud. « Vous avez bien joué, » me dit-elle. « Me direz-vous ce que veut dire ce texte ?»« C'est une déclaration. Une bien belle déclaration. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Un texte qui date du 26 août 1789, si ma mémoire est bonne. » Ce soir-là, on était au mois d'août. Il faisait beau. Il faisait doux.
Thank you.